deux cours après celui-là, et puis c'est les vacances. Chose que j'ignorais, c'est des vacances vendredi prochain. Hein.
Oui,
le... Enfin, peu importe.
Est-ce que vous voulez que je passe les
vacances ? Eh bien, curieusement, oui. Curieusement, oui. Je ne sais pas très bien pourquoi. C'est comme ça, mais on m'a dit qu'à partir de vendredi soir prochain, c'était fermé. Voilà. Bon, alors donc, il faut essayer de terminer, de boucler un peu. De boucler un peu ce que j'ai dit cette année. Donc, j'avais essayé un petit peu de poser le problème de la guerre envisagée comme grille d'intelligibilité des processus historiques, mais il m'avait semblé que cette guerre avait été conçue initialement, pratiquement pendant tout le XVIIIe siècle encore, comme guerre des races. Alors c'était un petit peu cette histoire de la guerre des races que j'avais voulu reconstituer. Et j'ai essayé la dernière fois de vous montrer comment la notion même de guerre... Comment la notion même de guerre avait été finalement éliminée de l'analyse historique par le principe de l'universalité nationale. Et je voudrais maintenant vous montrer comment le thème de la race va non pas disparaître, mais être repris dans toute autre chose, qui est le racisme d'État. Et alors, c'est la naissance du racisme d'État que je voudrais un petit peu vous raconter aujourd'hui, enfin, vous mettre en situation au moins. Bon. Il me semble qu'un des phénomènes fondamentaux qui s'est passé au XIXe siècle, ça a été ce qu'on pourrait appeler la prise en compte de la vie par le pouvoir, si vous voulez, une prise de pouvoir sur l'homme en tant qu'être vivant, sorte d'étatisation du biologique, ou du moins une certaine pente qui conduit à ce qu'on pourrait appeler l'étatisation du biologique. Bon, je crois que pour comprendre ce qui s'est passé, on peut se référer à ce qu'était la théorie classique de la souveraineté, qui finalement nous a servi de fond... tableau à toutes ces analyses sur la guerre, les races, etc. Dans la théorie classique de la souveraineté, vous savez que le droit de vie et de mort était un des attributs fondamentaux de la souveraineté. Or, le droit de vie et de mort est un droit qui est étrange. Étrange déjà au niveau théorique. Puisque qu'est-ce que c'est qu'avoir droit de vie et de mort ? En un sens, dire que le souverain a droit de vie et de mort, ça veut dire, au fond, qu'il peut faire mourir et laisser vivre, en tout cas que la vie et la mort ne sont pas de ces phénomènes naturels, immédiats, en quelque sorte originaires ou radicaux, qui tomberaient hors du champ du pouvoir politique. Ça veut dire aussi, quand on pousse un peu plus, et si vous voulez jusqu'au paradoxe, ceci veut dire, au fond, que vis-à-vis du pouvoir, le sujet, il n'est de plein droit ni vivant ni mort. Il est, du point de vue de la vie et de la mort, neutre. Et c'est simplement du fait du souverain que le sujet a droit à être vivant ou a droit éventuellement à être mort. En tout cas, leur vie, la vie et la mort des sujets ne deviennent de droit que par l'effet de la volonté souveraine. Voilà, si vous voulez, le paradoxe théorique qui doit se compléter évidemment par une sorte de déséquilibre pratique, parce que qu'est-ce que veut dire de fait le pouvoir, le droit de vie et de mort ? Non pas bien entendu que le souverain peut faire vivre comme il peut faire mourir, le droit de vie et de mort ne s'exerce que d'une façon déséquilibrée et toujours du côté de la mort. L'effet du pouvoir souverain sur la vie ne s'exerce qu'à partir du moment où le souverain peut tuer. C'est-à-dire que c'est finalement le droit de tuer qui détient effectivement en lui l'essence même de ce droit de vie et de mort. C'est au moment où le souverain peut tuer qu'il exerce son droit sur la vie. C'est essentiellement un droit de glaive. Il n'y a donc pas de symétrie réelle dans ce droit de vie et de mort. Ce n'est pas le droit de faire mourir ou de faire vivre. Ce n'est pas non plus le droit de laisser vivre et de laisser mourir. C'est le droit de faire mourir ou laisser vivre. Ce qui, bien entendu, introduit une dissymétrie éclatante. Et je crois que, justement, une des plus massives transformations du droit politique au XIXe siècle a consisté, je ne dis pas exactement à substituer, mais à compléter ce vieux droit de souveraineté, faire mourir ou laisser vivre, par un autre droit nouveau, qui ne va pas effacer le premier, mais qui va le pénétrer, le traverser, le modifier, et qui va être le droit exactement, le pouvoir exactement inverse plutôt, pouvoir de faire vivre et de laisser mourir. Le droit de souveraineté, c'est donc celui de faire mourir ou de laisser vivre, et puis c'est ce nouveau droit qui s'installe, c'est le droit de faire vivre et de laisser mourir. Cette transformation, bien sûr, elle ne s'est pas faite d'un coup. Elle ne s'est pas faite d'un coup. On peut en suivre la transformation dans la théorie du droit, mais là, je serai extraordinairement rapide. Déjà, si vous voulez, vous voyez chez les juristes du XVIIe et surtout du XVIIIe siècle poser cette question à propos du droit de vie et de mort, lorsque les juristes disent, mais enfin, voyons, quand on contracte au niveau du contrat social, c'est-à-dire lorsque les individus se réunissent pour constituer un souverain, pour déléguer à un souverain un pouvoir absolu sur eux. Ils le font pourquoi ? Ils le font bien parce qu'ils sont pressés par le danger ou par le besoin. Ils le font par conséquent pour protéger leur vie. C'est pour pouvoir vivre qu'ils constituent un souverain. Et dans cette mesure-là, est-ce que la vie peut effectivement entrer dans les droits du souverain ? Est-ce que ce n'est pas la vie qui est fondatrice du droit du souverain ? Et est-ce que le souverain peut réclamer effectivement à ses sujets le droit d'exercer sur eux le pouvoir de vie et de mort, c'est-à-dire le pouvoir tout simplement de les tuer ? Est-ce que la vie ne doit pas être hors contrat dans la mesure où c'est elle qui a été le motif premier, initial et fondamental du contrat ? Bon, tout ceci est une discussion, si vous voulez, de philosophie politique qu'on peut laisser de côté. Mais qui montre bien comment le problème de la vie commence à se problématiser dans le champ de la pensée politique, de l'analyse du pouvoir politique. En fait, ce que je voudrais, là où je voudrais suivre la transformation, c'est au niveau non pas donc de la théorie politique, mais beaucoup plutôt au niveau des mécanismes techniques, technologies de pouvoir. Bon, et alors là, on retombe, si vous voulez, sur des choses familières. C'est ceci. C'est que, j'ai assez insisté là-dessus pour n'y pas revenir longuement, au XVIIe et au XVIIIe siècle, on a vu apparaître des techniques de pouvoir qui étaient essentiellement centrées sur le corps individuel. C'était toutes ces procédures par lesquelles on assurait la distribution spatiale des corps individuels, leur séparation, leur alignement, leur mise en série et en surveillance, l'organisation autour de ces corps individuels de tout un champ de visibilité. C'était aussi ces techniques par lesquelles on prenait en charge ces corps, on essayait de majorer leur force utile par l'exercice, le dressage, etc. C'était également des techniques de rationalisation et d'économie stricte d'un pouvoir qui devait s'exercer de la manière la moins coûteuse possible par tout un système de surveillance, de hiérarchie, d'inspection, d'écriture, de rapport. Bref, toute cette technologie qu'on peut appeler technologie disciplinaire du travail. Elle se met en place, disons, au cours du XVIIIe siècle, ou de la fin du XVIIe, pendant tout le cours du XVIIIe. Or, pendant la seconde moitié du XVIIIe siècle, je crois que l'on voit apparaître quelque chose de nouveau, qui est une autre technologie de pouvoir, non disciplinaire celle-là. Une technologie de pouvoir qui n'exclut pas la première, qui n'exclut pas la technique disciplinaire, mais qui l'emboîte, qui l'intègre, qui la modifie partiellement, et qui surtout va l'utiliser, s'implantant en quelque sorte en elle et s'incrustant effectivement grâce à cette technique disciplinaire préalable. Elle ne supprime pas cette nouvelle technique, elle ne supprime pas la technique disciplinaire, tout simplement parce qu'elle est d'un autre niveau, elle est à une autre échelle, elle a une autre surface portante et elle s'aide de tout autre instrument. Ce à quoi s'applique cette nouvelle technique de pouvoir non disciplinaire, disciplinaire, c'est, à la différence de la discipline qui, elle, s'adresse au corps, c'est une discipline qui s'adresse à la vie des hommes. Ou encore, si vous voulez, non pas à l'homme-corps, mais à l'homme vivant, à l'homme-être vivant, à la limite, si vous voulez, à l'homme-espèce. Plus précisément, je dirais ceci, c'est que la discipline essaie de régir la multiplicité des hommes en tant que cette multiplicité peut et doit se résoudre en corps individuel, à surveiller, à dresser, à utiliser, éventuellement à punir. Et puis, la nouvelle technologie qui se met en place s'adresse à la multiplicité des hommes, mais non pas en tant qu'ils se résument dans des corps, mais la multiplicité des hommes, en tant qu'elle forme au contraire une masse globale, affectée de processus d'ensemble qui sont propres à la vie, et qui sont des processus comme la naissance, la mort, la reproduction, la maladie, etc. Donc, après une première prise de pouvoir sur le corps, qui s'est faite sur le mode de l'individualisation, on a une seconde prise de pouvoir qui, elle, n'est pas individualisante, mais qui est massifiante, si vous voulez, qui se fait en direction non pas de l'homme-corps, mais de l'homme-espèce. Après l'anatomopolitique du corps humain, mise en place au cours du XVIIIe siècle, on voit apparaître à la fin de ce même siècle quelque chose qui n'est plus une anatomopolitique du corps humain, mais ce que j'appellerais une biopolitique de l'espèce humaine. Eh bien, de quoi s'agit-il dans cette nouvelle technologie du pouvoir, ou dans cette biopolitique, ou dans ce biopouvoir qui est en train de s'installer? Bon, vous le disiez en deux mots tout à l'heure, il s'agit d'abord d'un ensemble de processus, comme la proportion des naissances et des décès, le taux de reproduction, la fécondité d'une population, etc. Ce sont ces processus-là, vous savez, qui justement, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, en liaison avec tout un tas de problèmes économiques et politiques sur lesquels je ne reviens pas là maintenant, ce sont ces problèmes-là, en gros, de natalité, mortalité, longévité, ce sont ces processus-là qui ont constitué, je crois, les premiers objets de savoir et les premières cibles de contrôle de cette biopolitique. C'est à ce moment-là, en tout cas, que on met en œuvre la mesure statistique de ces phénomènes avec les premières démographies. C'est l'observation de procédés plus ou moins spontanés ou plus ou moins concertés qui étaient mis effectivement en œuvre dans la population quant à la natalité, bref, si vous voulez, le repérage des phénomènes de contrôle des naissances telle qu'elle était pratiquée au XVIIIe siècle. Ça a été aussi l'esquisse d'une politique nataliste, ou en tout cas de schémas d'intervention dans ces phénomènes globaux de la natalité. Dans cette biopolitique, il ne s'agit pas simplement de, si vous voulez, du problème, en gros, de la fécondité, il s'agit aussi du problème de la morbidité, non plus simplement, comme ça avait été le cas jusque-là, au niveau de ces fameuses épidémies, dont le danger avait tellement hanté les pouvoirs politiques depuis le fond du Moyen-Âge, ces fameuses épidémies qui étaient des drames temporaires de la mort multipliée, de la mort devenue imminente pour tous. Ce n'est pas des épidémies qu'il s'agit à ce moment-là, il s'agit de quelque chose d'autre à la fin du XVIIIe siècle. En gros, si vous voulez, ce qu'on pourrait appeler les endémies, c'est-à-dire la forme, la nature, l'extension, la durée, l'intensité des maladies régnantes dans une population, maladies plus ou moins difficiles à extirper, et qui ne sont pas envisagées comme les épidémies à titre de cause de mort plus fréquente, mais qui sont envisagées comme des facteurs permanents. Ces endémies sont des facteurs permanents, et c'est comme ça qu'on les traite, facteurs permanents de soustraction de force, diminution de temps de travail, baisse d'énergie, coût économique, tant à cause du manque à produire que des soins qu'elles peuvent coûter. Bref, la maladie, si vous voulez, comme phénomène de population, non plus, si vous voulez, comme la mort qui s'abat brutalement sur la vie, c'est l'épidémie, mais comme la mort permanente, qui glisse dans la vie, la ronge perpétuellement, la diminue et l'affaiblit. Ce sont ces phénomènes-là qui sont, qu'on commence à prendre en compte à la fin du XVIIIe siècle et qui amènent la mise en place d'une médecine qui va avoir maintenant la fonction majeure de l'hygiène publique, avec des organismes qui sont des organismes de coordination des soins médicaux, de centralisation des informations, de normalisation du savoir, qui prend aussi l'allure de campagne d'apprentissage de l'hygiène et de médicalisation de la population. Donc, le problème de la reproduction, de la natalité, problème de la morbidité aussi, autre champ d'intervention de la biopolitique, eh bien, ça va être tout un ensemble de phénomènes dont les uns sont universels et dont les autres sont accidentels, mais qui, d'une part, ne sont jamais entièrement compressibles, même s'ils sont accidentels, et qui entraînent des conséquences analogues d'incapacité, de mise hors circuit des individus, de neutralisation, etc. Ça va être le problème très important dès le début du XIXe siècle avec les moments de l'industrialisation, c'est le problème de la vieillesse, de l'individu qui tombe par conséquent hors du champ de capacité d'activité. Et d'autre part, les accidents, les infirmités, les anomalies diverses. Et c'est par rapport à ces phénomènes-là que vont être mis en place, que cette biopolitique va mettre en place, non seulement des institutions d'assistance, elles existaient, elles, depuis très longtemps, mais des mécanismes beaucoup plus subtils, économiquement beaucoup plus rationnels que la grosse assistance à la fois massive et lacunaire qui était essentiellement rattachée à l'Église. Eh bien, on va avoir des mécanismes plus subtils, plus rationnels, d'assurance, d'épargne individuelle et collective, de sécurité, etc. Enfin, dernier domaine, j'énumère les principaux, en tout cas ceux qui sont apparus à la fin du XVIIIe, début du XIXe, il y en aura bien d'autres après, eh bien, prise en compte des relations entre l'espèce humaine, les êtres humains en tant qu'espèce, en tant qu'êtres vivants, et puis leur milieu d'existence, que ce soit les effets bruts du milieu géographique, climatique, hydrographique, le problème par exemple des marécages, des épidémies liées à l'existence de marécages dans toute la première moitié du XIXe siècle, et également les problèmes de ce milieu en tant que ce n'est pas un milieu naturel, mais en quelque sorte un milieu, les effets de retour sur la population d'un milieu qui a été créé par elle, et ça va être essentiellement le problème de la ville. Bon. Je vous signale là simplement donc quelques-uns des points à partir desquels s'est constituée cette biopolitique, quelques-unes de ses pratiques et les premiers de ces domaines à la fois de savoir et d'intervention. Ces domaines à la fois de savoir et de pouvoir, prélèvement de savoir et exercice du pouvoir, c'est sur la natalité, c'est sur la morbidité, c'est sur les incapacités biologiques diverses, c'est sur les effets de milieu, c'est sur tout cela que la biopolitique va prélever son savoir et définir le champ d'intervention de son pouvoir. Bon. Or, dans tout cela, je crois qu'il y a un certain nombre de choses qui sont importantes. La première, ce serait celle-ci, l'apparition d'un élément, j'allais dire d'un personnage nouveau, que, au fond, ni la théorie du droit, ni la pratique disciplinaire ne connaissait. La théorie du droit, au fond, elle ne connaissait que l'individu contractant, et puis le corps social qui avait été constitué par le contrat volontaire ou implicite des individus. Connaissait donc l'individu et la société. Les disciplines, elles avaient affaire pratiquement à quoi ? Eh bien, à l'individu et à son corps, donc l'individu et le corps. Ce à quoi on a affaire dans cette nouvelle technologie de pouvoir, ce n'est pas exactement la société, enfin le corps social tel que le définissaient les juristes, ce n'est pas non plus l'individu-corps, c'est un nouveau corps, corps multiple, corps à nombre de têtes, sinon infini, du moins pas nécessairement dénombrable. c'est la notion de population. La biopolitique a affaire à la population. Et la population comme problème politique, comme problème à la fois scientifique et politique, comme problème biologique et comme problème de pouvoir, eh bien, je crois que la population apparaît à ce moment-là. Deuxièmement, ce qui est important aussi, en dehors de l'apparition même de cet élément qu'est la population, ce qui est important, eh bien, c'est la nature des phénomènes qui sont pris en considération. Vous voyez que ce sont des phénomènes collectifs, qui n'apparaissent avec leurs effets économiques et politiques, qui ne deviennent pertinents qu'au niveau même de la masse. Ce sont des phénomènes qui sont individuellement aléatoires et imprévisibles, si on les prend donc en eux-mêmes individuellement, mais qui présentent au niveau collectif des constantes qu'il est facile d'établir, ou en tout cas possible d'établir. Et enfin, ce sont des phénomènes qui se déroulent essentiellement dans la durée, qui doivent être pris dans une certaine limite de temps plus ou moins longue, sont des phénomènes de série. En gros, si vous voulez, ce à quoi va s'adresser la biopolitique, c'est en somme aux événements aléatoires qui se produisent dans une population prise dans sa durée. Et à partir de là, troisième chose, je crois, importante, c'est que cette technologie de pouvoir, cette biopolitique, eh bien, va mettre en place des mécanismes qui ont un certain nombre de fonctions très différentes, je crois, des fonctions qui étaient celles des mécanismes disciplinaires. Il va s'agir, en effet, dans les mécanismes mis en place par la biopolitique, il va s'agir d'abord, bien sûr, de prévisions, d'estimations statistiques, de mesures globales. Il va s'agir également de modifier, non pas tel phénomène en particulier, non pas tellement tel individu en tant qu'il est un individu, mais essentiellement, il va s'agir d'intervenir au niveau de ce qui est ce que sont les déterminations de ces phénomènes généraux, de ces phénomènes dans ce qu'ils ont de global. Il va falloir modifier la morbidité, il va faire baisser la morbidité, il va falloir allonger la vie, il va falloir stimuler la natalité. Et il s'agit surtout d'établir des mécanismes régulateurs qui vont, dans cette population globale, avec son champ aléatoire, qui vont pouvoir fixer un équilibre, maintenir une moyenne, établir une sorte d'homéostasie, assurer des compensations, bref, en somme, installer des mécanismes de sécurité autour de cet aléatoire qui est inhérent à une population d'êtres vivants. Optimaliser, si vous voulez, un état de vie, mécanisme qui, vous le voyez, comme le mécanisme disciplinaire, destiné, en somme, à maximaliser des forces et à les extraire, mais qui passe par des chemins entièrement différents, car il ne s'agit pas là, à la différence des disciplines, d'un dressage individuel qui s'opérerait par un travail sur le corps lui-même. Il ne s'agit absolument pas de se brancher sur un corps individuel, comme le fait la discipline. Il ne s'agit par conséquent pas du tout de prendre l'individu au niveau du détail, mais au contraire, par des mécanismes globaux, d'agir de telle manière qu'on obtienne des états globaux d'équilibration, de régularité, bref, de prendre en compte la vie, les processus biologiques de l'homme-espèce et d'assurer sur eux, non pas une discipline, mais une régularisation. En deçà donc de ce grand pouvoir absolu, dramatique, sombre, qui était le pouvoir de la souveraineté et qui consistait à pouvoir faire mourir, voilà qu'apparaît maintenant, avec cette technologie du biopouvoir, cette technologie du pouvoir sur la population en tant que telle, sur l'homme en tant qu'être vivant, eh bien, va apparaître le pouvoir continu, savant, qui est le pouvoir de faire vivre. La souveraineté faisait mourir et laissait vivre, et voilà que maintenant apparaît un pouvoir que j'appellerais, si vous voulez, de régularisation. Un pouvoir de régularisation qui consiste au contraire à faire vivre et à laisser mourir. Et je crois que la manifestation de ce pouvoir, eh bien, il apparaît concrètement dans cette fameuse disqualification progressive de la mort sur laquelle les sociologues et historiens sont revenus si souvent. Bon, tout le monde sait, surtout depuis un certain nombre d'études récentes, tout le monde sait que la grande ritualisation publique de la mort a disparu, en tout cas s'est effacée progressivement depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'à maintenant, au point que maintenant, la mort, cessant d'être une de ces cérémonies éclatantes à laquelle les individus, la famille, le groupe, presque la société tout entière participait, la mort au contraire est devenue ce qu'on cache, elle est devenue la chose la plus privée et la plus honteuse, et à la limite c'est moins le sexe que la mort qui est aujourd'hui l'objet du tabou. Or je crois que la raison pour laquelle en effet la mort est devenue ainsi cette chose qu'on cache, la raison on n'est pas dans une sorte de déplacement de l'angoisse ou modification des mécanismes répressifs, et n'est dans une transformation des technologies de pouvoir. Ce qui donnait autrefois son éclat à la mort, et ceci jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, ce qui donnait son éclat à la mort, ce qui lui imposait sa si haute ritualisation, c'était qu'elle était la manifestation d'un passage d'un pouvoir à un autre. La mort, c'était le moment où on passait d'un pouvoir qui était celui du souverain d'ici-bas à cet autre pouvoir qui était celui du souverain de l'au-delà. On passait d'une instance de jugement à une autre, on passait d'un droit civil ou public de vie et de mort à un droit qui était celui de la vie éternelle ou de la damnation éternelle. Bon. Passage d'un pouvoir à un autre, c'était également la mort, une transmission du pouvoir du mourant qui se transmettait à ceux qui survivent, dernière parole, de dernière recommandation, volonté ultime, testament, etc. C'était tous ces phénomènes de pouvoir qui étaient ainsi ritualisés. Or maintenant que le pouvoir, c'est de moins en moins le droit de faire mourir, et de plus en plus le droit d'intervenir pour faire vivre, et sur la manière de vivre, et sur le comment de la vie. À partir du moment donc où le pouvoir intervient surtout à ce niveau-là, pour majorer la vie, pour en contrôler les accidents, les aléas, les déficiences, eh bien, du coup, la mort comme terme de la vie, elle est évidemment le terme du pouvoir, la limite, le bout du pouvoir. Elle est du côté extérieur par rapport au pouvoir. Elle est ce qui tombe hors de ses prises, et sur lequel le pouvoir n'aura prise, si vous voulez, que, en général, globalement, statistiquement, ce sur quoi le pouvoir a prise, ce n'est pas sur la mort, c'est sur la mortalité. Et dans cette mesure-là, il est bien normal que la mort, maintenant, retombe du côté du privé, et de ce qu'il y a de plus privé. Alors que c'était, dans le droit de souveraineté, la mort qui était le point où éclatait, de la façon la plus manifeste, l'absolu pouvoir du souverain, la mort va être au contraire maintenant le moment où l'individu échappe à tout pouvoir, retombe sur lui-même et se replie en quelque sorte sur sa part la plus privée. Le pouvoir ne connaît plus la mort au sens strict, le pouvoir laisse tomber la mort. Et si vous voulez, symboliser tout ça, prenons si vous voulez la mort de Franco. La mort de Franco qui est un événement tout de même très, très intéressant par les valeurs symboliques qu'il fait jouer, puisque mourait celui qui avait exercé le droit souverain de vie et de mort avec la sauvagerie que vous connaissez, le plus sanglant de tous les dictateurs, qui avait fait régner absolument pendant 40 ans le droit souverain de vie et de mort, et qui, au moment où lui-même va mourir, entre dans cette espèce de nouveau champ du pouvoir sur la vie, de ce pouvoir sur la vie qui consiste non seulement à aménager la vie, non seulement à faire vivre, mais finalement à faire vivre l'individu au-delà même de sa mort, et par un pouvoir qui n'est pas simplement prouesse scientifique, mais exercice effectivement, exercice de ce biopouvoir politique qui a été mis en place au XIXe siècle, on fait tellement bien vivre les gens qu'on arrive à les faire vivre au moment même où ils devraient biologiquement être morts depuis longtemps, et c'est ainsi que celui qui avait exercé le pouvoir absolu de vie et de mort sur des centaines de milliers de gens, eh bien, celui-là est tombé sous le coup d'un pouvoir qui a ménagé si bien la vie, qui regardait si peu la mort, qu'il ne s'était même pas aperçu qu'il était déjà mort et qu'on le faisait vivre après sa mort. Je crois que le choc entre ces deux systèmes de pouvoir, celui de la souveraineté sur la mort et celui de la régularisation de la vie, ce choc se trouve symbolisé dans ce petit et joyeux événement. Eh bien, je voudrais maintenant reprendre la comparaison, si vous voulez, entre la technologie régularisatrice de la vie et la technologie disciplinaire du corps dont je vous parlais tout à l'heure. On a donc, si vous voulez, depuis le XVIIIe siècle, en tout cas depuis la fin du XVIIIe siècle, on a deux technologies de pouvoir qui se sont mises en place avec un certain décalage chronologique et qui se sont superposées. Une technique qui, donc, est disciplinaire, elle est centrée sur le corps, elle produit des effets individualisants, elle manipule le corps comme foyer de force, qu'il faut à la fois rendre utile et docile. Bon. Et d'un autre côté, on a une technologie qui, elle, est centrée non pas sur le corps, mais sur la vie. Une technologie qui regroupe les effets de masse propres à une population. Une technologie qui cherche à contrôler la série des événements hasardeux qui peuvent se produire dans une masse vivante, une technologie qui cherche à en contrôler, éventuellement en modifier la probabilité, en tout cas en compenser les effets. C'est une technologie qui vise donc, non pas par le dressage individuel, mais par l'équilibre global, à quelque chose comme une homéostasie, la sécurité de l'ensemble par rapport à ses dangers internes. Donc, une technologie de dressage opposée ou distincte d'une technologie, si vous voulez, de sécurité, une technologie disciplinaire qui se distingue d'une technologie assurantielle ou régularisatrice, une technologie qui est bien, dans les deux cas, technologie du corps, mais dans un cas, technologie où le corps est individualisé comme organisme doué de capacités, et dans l'autre cas, il s'agit d'une technologie où les corps sont replacés dans les processus biologiques d'ensemble. Bon, on pourrait dire ceci, tout s'est passé comme si les pouvoirs qui avaient, si vous voulez, comme modalité, et comme schéma organisateur, la souveraineté, eh bien, ces pouvoirs s'étaient trouvés inopérants pour régir le corps économique et politique d'une société en voie à la fois d'explosion démographique et d'industrialisation, si bien que, à la vieille mécanique du pouvoir de souveraineté, beaucoup trop de choses échappaient à la fois par en bas et par en haut, au niveau du détail et au niveau de la masse. C'est pour rattraper le détail qu'une première accommodation a eu lieu, accommodation de mécanismes de pouvoir sur le corps individuel, avec surveillance et dressage, ça a été la discipline. Bien sûr, ça a été l'accommodation la plus facile, la plus commode à réaliser, c'est pourquoi elle s'est réalisée le plus tôt, dès le 17e, début du 18e siècle, elle s'est réalisée à un niveau local, dans des formes, si vous voulez, intuitives, empiriques, fractionnées, et dans le cadre limité d'institutions comme l'école, l'hôpital, la caserne, l'atelier, etc. Et puis, vous avez eu ensuite, à la fin du XVIIIe siècle, une seconde accommodation, elle, sur les phénomènes globaux, sur les phénomènes de population, avec les processus biologiques ou biosociologiques des masses humaines, accommodation beaucoup plus difficile, car, bien entendu, elle impliquait des organes complexes de coordination et de centralisation. On a donc, si vous voulez, deux séries. La série corps, organisme, discipline, institution, et la série population, processus biologique, mécanisme régularisateur et État. Un ensemble organique institutionnel, l'organodiscipline de l'institution, si vous voulez, et d'un autre côté, un ensemble biologique et étatique, la biorégulation par l'État. Bon, je ne veux pas faire jouer dans l'absolu cette opposition entre État et institution, parce que les disciplines tendent de fait toujours à déborder le cadre institutionnel et local où elles sont prises, et puis elles prennent facilement une dimension étatique dans certains appareils, par exemple comme la police, qui est à la fois un appareil de discipline et un appareil d'État, ce qui prouve que la discipline n'est pas toujours institutionnelle. Et de la même façon, ces grandes régulations globales qui ont proliféré au long du XIXe siècle, on les trouve bien sûr au niveau étatique, mais au-dessous aussi du niveau étatique, avec toute une série d'institutions sous-étatiques, comme les institutions médicales, les caisses de secours, les assurances, etc. Bon, c'est la première remarque que je voudrais faire. D'autre part, ces deux ensembles de mécanismes, l'un disciplinaire, l'autre régularisateur, ne sont pas de même niveau. Ce qui leur permet précisément de ne pas s'exclure et de pouvoir s'articuler l'un sur l'autre. On peut même dire que dans la plupart des cas, les mécanismes disciplinaires de pouvoir et les mécanismes régularisateurs de pouvoir, les mécanismes disciplinaires sur le corps et les mécanismes régularisateurs sur la population sont articulés l'un sur l'autre. Prendre comme ça un ou deux exemples. Prenez, si vous voulez, le problème de la ville. Plus précisément, cette disposition spatiale, réfléchie, concertée, que constitue la ville modèle, la ville artificielle, la ville de réalité utopique telle qu'on l'a non seulement rêvée, mais constituée effectivement au XIXe siècle. Prenez quelque chose comme la cité ouvrière. La cité ouvrière telle qu'elle existe au XIXe siècle, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, on voit très bien comment elle articule en quelque sorte à la perpendiculaire des mécanismes disciplinaires de contrôle sur le corps, sur les corps, par son quadrillage, par le découpage même de la cité, par la localisation des familles dans chacune dans une maison, des individus chacun dans une pièce, découpage, mise en visibilité des individus, normalisation des conduites, sorte de contrôle policier spontané qui s'exerce ainsi par la disposition même spatiale même de la ville. Donc toute une série de mécanismes disciplinaires qu'il est facile de retrouver dans la cité ouvrière. Et puis vous avez toute une série de mécanismes qui sont au contraire des mécanismes régularisateurs. Des mécanismes régularisateurs qui portent sur la population en tant que telle et qui induisent des conduites d'épargne, par exemple, qui sont liées à l'habitat, la location de l'habitat, éventuellement son achat, des systèmes d'assurance maladie ou d'assurance vieillesse, des règles d'hygiène qui assurent la longévité optimale de la population, des pressions que l'organisation même de la ville fait jouer sur la sexualité, donc sur la procréation, les pressions qu'on exerce sur l'hygiène des familles, les soins apportés aux enfants, la scolarité, etc. Donc vous avez mécanismes disciplinaires et mécanismes régularisateurs. Prenez un tout autre domaine, enfin tout autre, pas entièrement, mais prenez dans un autre axe quelque chose comme la sexualité. Au fond, pourquoi est-ce que la sexualité est devenue au XIXe siècle un champ dont l'importance stratégique a été capitale ? Eh bien, je crois que si la sexualité a été importante, c'est pour tout un tas de raisons, mais en particulier, il y a eu celle-ci, c'est que d'un côté, la sexualité, en tant que conduite exactement corporelle, relève d'un contrôle disciplinaire, individualisant, en forme de surveillance permanente, et les fameux contrôles, par exemple, de masturbation qui ont été exercés sur les enfants depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'au XXe, et ceci dans le milieu familial, dans le milieu scolaire, etc., représentent exactement ce côté du contrôle disciplinaire de la sexualité. Et puis, d'un autre côté, la sexualité, eh bien, elle s'inscrit, par ses effets procréateurs, bien sûr, elle s'inscrit et prend effet dans des processus biologiques larges, qui concerne non plus le corps de l'individu, mais cet élément, cette unité multiple que constitue la population. La sexualité, elle est exactement au carrefour du corps et de la population. Donc elle relève de la discipline, mais elle relève aussi de la régularisation. L'extrême valorisation médicale de la sexualité au XIXe siècle, et là je crois son principe, dans cette position privilégiée de la sexualité entre organismes et population, entre corps et phénomènes globaux. De là aussi l'idée médicale que justement la sexualité, quand elle est indisciplinée et irrégulière, a toujours deux ordres d'effet. L'un sur le corps indiscipliné, qui est immédiatement sanctionné par toutes les maladies individuelles que le débauché sexuel s'attire sur lui-même. Un enfant qui se masturbe trop sera malade toute sa vie. Sanction disciplinaire au niveau du corps. Mais en même temps, une sexualité débauchée, pervertie, etc., a des effets au niveau de la population, puisque celui qui a été débauché sexuellement est censé avoir une hérédité, une descendance qui va être perturbée, elle aussi, et ceci pendant des générations et des générations, à la septième génération et à la septième de la septième génération, et c'est la théorie de la dégénérescence. Que la sexualité, en tant qu'elle est au foyer de maladies individuelles, et étant donné qu'elle est d'autre part au noyau de la dégénérescence, représente très exactement ce point d'articulation du disciplinaire et du régularisateur du corps et de la population. Et vous comprenez alors dans ces conditions pourquoi et comment un savoir technique comme la médecine, ou plutôt l'ensemble constitué par médecine fousienne, va être au XIXe siècle un élément, je ne peux pas dire le plus important, mais dont l'importance va être considérable par le lien qu'il établit entre les prises scientifiques sur les processus biologiques et organiques, c'est-à-dire sur la population et sur le corps, et en même temps, dans la mesure où la médecine va être une technique politique d'intervention avec des effets de pouvoir propre. C'est un savoir-pouvoir, la médecine, qui porte à la fois sur le corps et sur la population, sur l'organisme et sur les processus biologiques, qui va donc avoir des effets disciplinaires et des effets régularisateurs. D'une façon plus générale encore, on peut dire que l'élément qui va circuler du disciplinaire au régularisateur, l'élément qui va s'appliquer de la même façon au corps et à la population, qui permet à la fois de contrôler l'ordre disciplinaire du corps et les événements aléatoires d'une multiplicité biologique, cet élément qui circule de l'un à l'autre, c'est la norme. La norme, c'est ce qui peut aussi bien s'appliquer à un corps que l'on veut discipliner qu'à une population que l'on veut régulariser. La société de normalisation n'est donc pas dans ces conditions. Une sorte de société disciplinaire généralisée, dont les institutions disciplinaires auraient essaimé et finalement recouvert tout l'espace. Ce n'est, je crois, qu'une première interprétation et insuffisante de l'idée de société de normalisation. La société de normalisation, c'est une société où se croise, selon une articulation orthogonale, la norme de la discipline et la norme de la régulation. Moins que le pouvoir au XIXe siècle a pris la vie en charge, c'est dire qu'il est arrivé à couvrir toute la surface qui s'étend de l'organique au biologique, du corps à la population, par le double jeu des technologies de discipline d'une part et des technologies de régulation de l'autre. Nous sommes donc dans un pouvoir qui a pris en charge et le corps et la vie, ou qui a pris, si vous voulez, disons, la vie en général en charge, avec le pôle du côté du corps et le pôle du côté de la population. Biopouvoir. Par conséquent, biopouvoir dont on peut repérer aussitôt à les paradoxes qui apparaissent à la limite même de son exercice, paradoxe qui apparaît d'un côté, si vous voulez, avec le pouvoir atomique qui n'est pas simplement le pouvoir de tuer, selon les droits qui sont donnés à tout souverain, des millions et des centaines de millions d'hommes, après tout ceci est traditionnel, mais ce qui fait que le pouvoir atomique est pour le fonctionnement du pouvoir politique actuel, sorte de paradoxe difficile à contourner, sinon tout à fait incontournable, c'est donc que dans le pouvoir de fabriquer et d'utiliser la bombe atomique, on a la mise en jeu et d'un pouvoir de souveraineté qui tue, mais également un pouvoir qui est celui de tuer la vie elle-même, de sorte que dans ce pouvoir atomique, le pouvoir qui s'exerce de telle façon qu'il est capable de supprimer la vie et de se supprimer par conséquent comme pouvoir d'assurer la vie. Où il est souverain et il utilise la bombe atomique, mais du coup il ne peut plus être pouvoir, biopouvoir, pouvoir d'assurer la vie comme il l'est depuis le 19e siècle. Et à l'autre limite, vous avez alors l'excès au contraire, non plus du droit souverain sur le biopouvoir, mais excès du biopouvoir sur le droit souverain. Cet excès du biopouvoir, il apparaît lorsque, et techniquement et politiquement, donner à l'homme la possibilité non seulement d'aménager la vie, mais de faire proliférer la vie, de fabriquer du vivant, de fabriquer du monstre, de fabriquer à la limite du virus incontrôlable et universellement destructeur. Extension formidable du biopouvoir qui, à l'opposition de ce que je vous disais tout à l'heure pour le pouvoir atomique, va déborder toute la souveraineté humaine. Bon. Eh bien, je m'excuse de ces longs parcours à propos du biopouvoir, mais je crois que c'est sur ce fond-là que l'on peut retrouver le problème que j'avais essayé de poser. Vous me donnerez un peu plus de temps que... jusque vers 11h15, monsieur. Jusque vers 11h15, monsieur. Bon, alors, dans cette technologie de pouvoir, qui a pour objet, donc, et pour objectif, la vie, et qui me paraît un des traits fondamentaux de la technologie du pouvoir depuis le 19e siècle. Comment va s'exercer le droit de tuer et la fonction du meurtre s'il est vrai que le pouvoir de souveraineté recule de plus en plus et qu'au contraire avance de plus en plus le biopouvoir disciplinaire ou régulateur, comment est-ce qu'un pouvoir comme celui-là peut tuer? Comment, s'il est vrai qu'il s'agit essentiellement de majorer la vie, d'en prolonger la durée, d'en multiplier les chances, d'en détourner les accidents ou bien d'en compenser les déficits, comment dans ces conditions est-ce qu'il est possible pour un pouvoir politique de tuer, de réclamer la mort, de demander la mort, de faire tuer, de donner l'ordre de tuer, d'exposer à la mort non seulement ses ennemis, mais même ses propres citoyens? Comment est-ce qu'il peut laisser mourir ce pouvoir qui a essentiellement pour objectif de faire vivre? Comment exercer le pouvoir de la mort? Comment exercer la fonction de la mort dans un système politique centré sur le biopouvoir? Eh bien, je crois que c'est là qu'intervient le racisme. C'est là qu'intervient le racisme. Alors, encore une fois, je ne veux pas dire du tout que le racisme a été inventé à cette époque. Il existait depuis bien longtemps, mais je crois qu'il fonctionnait ailleurs. Ce qui a inscrit le racisme dans les mécanismes de l'État, c'est bien l'émergence de ce biopouvoir. C'est à ce moment-là que le racisme s'est inscrit comme mécanisme fondamental du pouvoir tel qu'il s'exerce dans les États modernes. Et ce qui fait qu'il n'y a guère de fonctionnement moderne de l'État qui, à un certain moment, à une certaine limite et dans certaines conditions, ne passe pas par le racisme. En effet, qu'est-ce que c'est que le racisme? Eh bien, c'est d'abord le moyen d'introduire dans ce domaine de la vie que le pouvoir a pris en charge, d'introduire enfin une coupure. La coupure entre ce qui doit vivre et ce qui doit mourir dans le continuum biologique de l'espèce humaine. L'apparition des races, la distinction des races, la hiérarchie des races, la qualification des races, de certaines races comme bonnes et d'autres au contraire comme inférieures, tout ceci va être une manière de fragmenter ce champ du biologique que le pouvoir a pris en charge. Ça va être une manière de décaler à l'intérieur de la population des groupes les uns par rapport aux autres. Bref, de pouvoir établir une césure qui sera de type biologique à l'intérieur d'un domaine qui se donne comme étant précisément un domaine biologique. Ça va permettre, en gros, si vous voulez, au pouvoir de traiter une population comme un mélange de races, ou plus exactement, de traiter l'espèce, de subdiviser l'espèce qu'il a pris en charge en sous-groupes qui seront précisément les races. C'est là la première fonction du racisme. Donc, de fragmenter, de faire des césures à l'intérieur de ce continuum biologique auquel s'adresse le biopouvoir. Et d'un autre côté, eh bien, le racisme aura, et c'est sa seconde fonction, il aura pour rôle de permettre d'établir une relation positive, si vous voulez, du type « plus tu tueras, plus tu feras mourir ou plus tu laisseras mourir, et plus, du fait même, toi, tu vivras ». Je me dirais que cette relation entre « si tu veux vivre, il faut que tu fasses mourir », il faut que tu puisses tuer. Cette relation, après tout, ce n'est pas le racisme ni l'État moderne qui l'a inventé, c'est la relation guerrière. Pour vivre, il faut bien que tu massacres tes ennemis. Mais le racisme fait, justement, fonctionner cette relation type guerrier. Si tu veux vivre, il faut que l'autre meure. Le racisme va la faire fonctionner, va la faire jouer d'une manière qui est toute nouvelle et qui est précisément compatible avec l'exercice du biopouvoir. D'une part, en effet, le racisme va permettre d'établir entre ma vie à moi et la mort de l'autre une relation qui n'est pas une relation militaire et guerrière d'affrontement, mais une relation de type biologique. Plus les espèces inférieures tendront à disparaître, plus les individus anormaux seront éliminés, moins il y aura de dégénérés par rapport à l'espèce, plus moi, non pas en tant qu'individu, mais en tant qu'espèce, je vivrai, je serai fort, je serai vigoureux, je pourrai proliférer. La mort de l'autre, ce n'est pas simplement ma vie dans la mesure où ça serait ma sécurité personnelle. La mort de l'autre, la mort de la mauvaise race, de la race inférieure ou du dégénéré ou de la normale, c'est ce qui va rendre la vie en général plus saine et plus pure. Rapport donc non pas militaire, guerrier ou politique, mais rapport biologique. Et c'est, si ce mécanisme peut jouer, c'est que les ennemis qu'il s'agit de supprimer, ce ne sont pas les adversaires au sens politique du terme, ce sont les dangers, dangers externes ou internes, par rapport à la population et pour la population. Autrement dit, la mise à mort, l'impératif de mort n'est recevable dans le système du biopouvoir que s'il tend non pas à la victoire sur des adversaires politiques, mais s'il tend à l'élimination du danger biologique et au renforcement directement lié à cette élimination de l'espèce elle-même ou de la race. La race, le racisme, c'est la condition d'acceptabilité de la mise à mort dans une société de normalisation. Là où vous avez société de normalisation, là où vous avez, si vous voulez, un pouvoir qui est au moins sur toute sa surface et en première instance et en première ligne un biopouvoir, eh bien, le racisme est indispensable comme condition pour pouvoir mettre quelqu'un à mort, pour pouvoir mettre les autres à mort. La fonction meurtrière de l'État ne peut être assurée dès lors que l'État fonctionne sur le mode du biopouvoir, ne peut être assuré que par le racisme. Vous comprenez par conséquent l'importance, j'allais dire l'importance vitale du racisme dans l'exercice d'un tel pouvoir. C'est la condition sous laquelle on peut exercer le droit de tuer. Si le pouvoir de normalisation veut exercer le vieux droit souverain de tuer, il faut qu'il passe par le racisme. Et si inversement, un pouvoir de souveraineté, c'est-à-dire un pouvoir qui a droit de vie et de mort, veut fonctionner avec les instruments, avec les mécanismes, avec la technologie de la normalisation, eh bien, il faut lui aussi qu'il passe par le racisme. Bien entendu, par mise à mort, j'entends pas simplement le meurtre direct, mais aussi tout ce qui peut être meurtre indirect, fait d'exposer à la mort, de multiplier pour certains le risque de mort, ou tout simplement la mort politique, l'expulsion, le rejet, etc. Bon, en tout cas, à partir de là, je crois qu'on peut comprendre un certain nombre de choses. On peut comprendre d'abord le lien qui s'est rapidement, j'allais dire immédiatement, noué entre la théorie biologique du XIXe siècle et le discours du pouvoir. Au fond, l'évolutionnisme. L'évolutionnisme entendu en un sens large, c'est-à-dire non pas tellement la théorie de Darwin elle-même que l'ensemble de ces notions comme hiérarchie des espèces sur l'arbre commun de l'évolution, lutte pour la vie entre les espèces, sélection qui élimine les moins adaptés, enfin ce paquet de notions, si vous voulez, est devenu tout naturellement en quelques années au XIXe siècle, non pas simplement une manière de transcrire en termes biologiques le discours politique, non pas simplement une manière de cacher un discours politique sous un vêtement scientifique, mais ça a vraiment été, cet évolutionnisme, une manière de penser les rapports de la colonisation, la nécessité des guerres, la criminalité, les phénomènes de la folie et de la maladie mentale, l'histoire des sociétés avec ses différentes classes, etc. Autrement dit, chaque fois qu'il y a eu affrontement, mise à mort, lutte, risque de mort, ça a été dans la forme de l'évolutionnisme qu'on a été contraint littéralement de le penser. Et on peut comprendre aussi pourquoi le racisme se développe dans ces sociétés modernes qui fonctionnent sur le mode du biopouvoir. On comprend pourquoi le racisme va éclater en un certain nombre de points privilégiés, qui sont précisément les points où le droit à la mort est nécessairement requis. Le racisme va se développer primo avec la colonisation, c'est-à-dire avec le génocide colonisateur, quand il va falloir tuer des gens, tuer des populations, tuer des civilisations. Comment est-ce qu'on pourra le faire si l'on fonctionne sur le mode du biopouvoir? Eh bien, par les thèmes de l'évolution, à travers les thèmes de l'évolutionnisme, par un racisme. La guerre. Comment peut-on non seulement faire la guerre à ses adversaires, mais exposer ses propres citoyens à la guerre, les faire tuer par millions, comme ça s'est passé justement depuis le XIXe siècle, depuis la seconde moitié du XIXe siècle, sinon précisément en activant le thème du racisme. Dans la guerre, il va s'agir de deux choses désormais. Détruire non pas simplement l'adversaire politique, mais détruire la race adverse. Cette espèce de danger biologique que représente pour la race que nous sommes ceux d'en face, bien sûr. Ce n'est là en quelque sorte une extrapolation biologique du thème de l'ennemi politique. Mais plus encore, la guerre va apparaître, et ceci est absolument nouveau, elle va apparaître à la fin du XIXe siècle comme une manière non pas simplement de renforcer sa propre race en éliminant la race adverse selon le thème de la sélection et de la lutte pour la vie, mais également une manière de régénérer sa propre race. Plus nombreux seront ceux qui meurent parmi nous, plus la race à laquelle nous appartenons sera pure. Et vous avez là tout un racisme de la guerre, nouveau à la fin du XIXe siècle, et qui était, je crois, nécessité par le fait qu'un biopouvoir, quand il voulait faire la guerre, comment pouvait-il en articuler et la volonté de détruire l'adversaire et le risque qu'il prenait de tuer ceux-là, même dont il devait, par définition, protéger, aménager, multiplier la vie. Bon, on pourrait dire la même chose à propos de la criminalité. Si la criminalité a été pensée en termes de racisme, c'est également à partir du moment où il fallait rendre possible dans un mécanisme de biopouvoir la mise à mort d'un criminel, la mise à mort ou sa mise à l'écart. Bon, même chose pour la folie, même chose pour les anomalies diverses. En gros, le racisme, je crois, il assure la fonction de mort dans l'économie du biopouvoir selon le principe que la mort des autres, c'est le renforcement biologique de soi-même, c'est le renforcement biologique de soi-même en tant que l'on est membre d'une race ou d'une population, en tant que l'on est élément dans une pluralité unitaire et vivante. Et vous voyez que nous sommes là, au fond, très loin d'un racisme qui serait simplement et traditionnellement simple mépris ou haine des races les unes pour les autres. Nous sommes très loin aussi d'un racisme qui serait une sorte d'opération idéologique par lequel les États ou une classe essaieraient de détourner vers un adversaire mythique des hostilités qui seraient tournées vers elle ou qui travailleraient le corps social. Je crois que c'est beaucoup plus profond qu'une vieille tradition. Je crois que c'est beaucoup plus profond qu'une nouvelle idéologie. C'est autre chose. La spécificité du racisme moderne, ce qui fait sa spécificité, ce n'est pas lié à des mentalités, ce n'est pas lié à des idéologies, ce n'est pas lié au mensonge du pouvoir, c'est lié à la technique du pouvoir, c'est lié à la technologie du pouvoir, c'est lié à ceci qui nous place au plus loin de la guerre des races et de cette intelligibilité de l'histoire, dans un mécanisme qui permet au biopouvoir de s'exercer. Dans le racisme, il est lié au fonctionnement d'un État qui est obligé de se servir de la race, de l'élimination des races et de la purification de la race pour exercer son pouvoir souverain. La juxtaposition, ou le fonctionnement plutôt, à travers le biopouvoir, du vieux pouvoir souverain de droit et de mort, implique le fonctionnement, la mise en place et l'activation du racisme, et c'est là, je crois, qu'effectivement, il s'enracine. Vous comprenez alors dans ces conditions comment et pourquoi on peut comprendre que les États les plus meurtriers sont en même temps forcément les plus racistes, et bien sûr, là, il faut prendre l'exemple du nazisme. Après tout, le nazisme, c'est bien, en effet, le développement jusqu'au paroxysme des mécanismes de pouvoir nouveaux qui avaient été mis en place depuis le XVIIIe siècle. Pas d'État plus disciplinaire, bien sûr, que le régime nazi. Pas d'État non plus où les régulations biologiques soient reprises en compte d'une manière plus serrée et plus insistante. Pouvoir disciplinaire, biopouvoir, tout ceci a parcouru, soutenu à bout de bras la société nazie, prise en charge du biologique, de la procréation, de l'hérédité, prise en charge aussi de la maladie, des accidents, par de sociétés à la fois plus disciplinaires et plus assurantielles que celles qui avaient été mises en place ou en tout cas projetées par le nazisme. Le contrôle des aléas propres au processus biologique était un des objectifs immédiats du régime. Mais en même temps qu'on avait cette société dont universellement assurantielle, universellement sécurisante, universellement régulatrice et disciplinaire, eh bien, en même temps, à travers cette société, déchaînement le plus complet du pouvoir meurtrier, c'est-à-dire de ce vieux pouvoir souverain de tuer, et ce pouvoir de tuer qui traverse tout le corps social de la société nazie, eh bien, ce pouvoir meurtrier, il se manifeste, eh bien, d'abord parce que le pouvoir de tuer, le pouvoir de vie et de mort, il est donné non pas simplement à l'État, mais à toute une série d'individus, à une quantité considérable de gens, que ce soit les SA, les SS, etc., à la limite même, tout le monde a droit de vie et de mort sur son voisin dans l'État nazi, ne serait-ce que par la conduite de dénonciation, qui permet effectivement de supprimer ou de faire supprimer celui qui est à côté de vous. Donc, déchaînement du pouvoir meurtrier et du pouvoir souverain à travers tout le corps social, également par le fait que la guerre est explicitement posée comme un objectif politique, et pas simplement au fond comme un objectif politique pour obtenir un certain nombre de moyens, mais comme une sorte de phase ultime et décisive de tous les processus politiques. La politique doit aboutir à la guerre, et la guerre doit être la phase finale et décisive qui va couronner l'ensemble. Et par conséquent, ce n'est pas simplement la destruction des autres races qui est l'objectif du régime nazi. La destruction des autres races est une des faces du projet, l'autre face étant d'exposer sa propre race au danger absolu et universel de la mort, le risque de mourir. L'exposition à la destruction totale est un des principes, est inscrit parmi les devoirs fondamentaux de l'obéissance nazie et parmi les objectifs essentiels de la politique. Il faut que l'on arrive à un point tel que la population tout entière soit exposé à la mort, seule cette exposition universelle de toute la population à la mort pourra effectivement la constituer comme race supérieure et la régénérer définitivement en face de races ou qui auront été totalement exterminées ou qui seront définitivement asservies. On a donc dans la société nazie cette chose tout de même extraordinaire. C'est une société qui a absolument généralisé le biopouvoir, mais qui a en même temps généraliser le droit souverain de tuer. Les deux mécanismes, celui classique, archaïque, qui donnait à l'État droit de vie et de mort sur ses citoyens, et le nouveau mécanisme organisé autour de la discipline, de la régulation, bref, les nouveaux mécanismes de biopouvoir, se trouvent exactement coïncidés. De sorte qu'on peut dire ceci, c'est que l'État nazi a rendu absolument coextensif le champ d'une vie qu'il aménage, protège, garantit, cultive biologiquement, et le droit en même temps, le droit souverain de tuer quiconque, non seulement les autres, mais les siens propres. Il y a eu chez les nazis une coïncidence d'un biopouvoir généralisé avec une dictature à la fois absolue et retransmise à travers tout le corps social par cette formidable démultiplication du droit de tuer et de l'exposition à la mort. On a un État absolument raciste, un État absolument meurtrier et un État absolument suicidaire. Racisme, État raciste, État meurtrier, État suicidaire, cela se superpose nécessairement et a abouti, bien sûr, à la fois à la solution finale par laquelle on a voulu éliminer à travers les Juifs toutes les autres races dont les Juifs étaient à la fois le symbole et la manifestation, et en même temps, donc solution finale des années 1942-43, et puis le télégramme 71, qui, au mois d'avril 1940, par lequel, en avril 1945, Hitler donnait ordre de détruire les conditions de vie du peuple allemand lui-même. Solution finale pour les autres races, suicide absolu de la race, c'est à cela que menait cette mécanique, je crois, inscrite dans le fonctionnement de l'État moderne. Seul, bien sûr, le nazisme a poussé jusqu'au paroxysme le jeu entre le droit souverain de tuer et les mécanismes du biopouvoir, mais le jeu, il est inscrit effectivement dans le fonctionnement de tous les États. De tous les États modernes, de tous les États capitaliste, eh bien, pas sûr. Et je crois que justement, alors là, ça serait une autre démonstration, je crois que l'État socialiste, le socialisme, est tout aussi marqué de racisme que le fonctionnement de l'État moderne, de l'État capitaliste, je veux dire. En face du racisme d'État, qui s'est formé dans les conditions dont je vous ai parlé, il s'est constitué un social racisme qui n'a pas attendu la formation des États socialistes pour apparaître. Le socialisme a été, d'entrée de jeu, au XIXe siècle, un racisme. Et que ce soit Fourier au début du siècle, ou que ce soit les anarchistes à la fin du siècle, en passant par toutes les formes de socialisme, vous y voyez toujours une composante de race. Bon, là, ça m'est très difficile d'en parler, parce qu'en parler comme ça, c'est pratiquer l'affirmation massue. Vous le démontrez, ça impliquerait ce que je voulais faire, une autre batterie de cours, et nous sommes à la fin. En tout cas, si vous voulez, je voudrais simplement dire en gros ceci. C'est que, d'une façon générale, il me semble, bon, là c'est un peu libre propos, il me semble que dans le socialisme, tant que justement, il ne pose jamais, enfin il le pose en première instance, les problèmes économiques ou juridiques, du mode de propriété, du type de propriété ou du mode de production, dans la mesure par conséquent où le problème de la mécanique du pouvoir, des mécanismes du pouvoir, n'est pas posé par lui et analysé par lui, il ne peut pas manquer de réaffecter, réinvestir ces mêmes mécanismes de pouvoir que l'on a vu se constituer à travers l'État capitaliste ou l'État industriel. En tout cas, une chose est certaine, c'est que le thème du biopouvoir
développé à la fin du XVIIIe siècle et pendant tout le XIXe siècle, non seulement n'a pas été critiqué par le socialisme, mais en fait, il a été repris par lui, développé, réimplanté, modifié sur certains points, mais absolument pas réexaminé dans ses bases et dans ses modes de fonctionnement. L'idée finalement que la société, ou l'État, ou ce qui doit se substituer à l'État, a essentiellement pour fonction de prendre en charge la vie, de l'aménager, de la multiplier, d'en compenser les aléas, d'en parcourir et délimiter les chances et les possibilités biologiques, il me semble que ceci a été repris tel quel par le socialisme, avec par conséquent les conséquences que ça a dès lors que l'on se trouve dans un État socialiste qui doit exercer le droit de tuer, ou le droit d'éliminer, ou le droit de disqualifier, et c'est ainsi que tout naturellement vous allez retrouver le racisme. Le racisme proprement ethnique, mais le racisme de type évolutionniste, le racisme biologique, si vous voulez, vous allez le trouver fonctionnant à plein dans les États socialistes, type une Union soviétique, à propos des malades mentaux, des criminels, des adversaires politiques, etc. Bon, voilà pour l'État. Mais ce qui me paraît intéressant aussi, et ce qui m'a fait longtemps problème, c'est que, encore une fois, ce n'est pas simplement au niveau de l'État socialiste que l'on retrouve ce même fonctionnement du racisme, mais vous le trouvez dans les différentes formes d'analyse ou de projet socialiste tout au long du XIXe siècle. Et me semble-t-il autour de ceci. Chaque fois qu'un socialisme a au fond insisté davantage sur surtout insisté sur la transformation des conditions économiques comme principe de transformation et de passage de l'État socialiste à l'État de l'État capitaliste à l'État socialiste. Autrement dit, chaque fois qu'il a cherché le principe de la transformation au niveau des processus économiques, socialisme n'a pas eu besoin immédiatement au moins de racisme. En revanche, chaque fois qu'on a des socialistes qui insiste, ou à tous les moments où le socialisme a été obligé d'insister sur le problème de la lutte contre l'ennemi, de l'élimination de l'adversaire à l'intérieur même de la société capitaliste, lorsqu'il s'est agi par conséquent de penser l'affrontement physique avec l'adversaire de classe dans la société capitaliste, le biologisme a ressurgi, le racisme a ressurgi. Le racisme a ressurgi parce que le racisme a été la seule manière pour une pensée socialiste qui était tout de même très liée au thème du biopouvoir, ça a été la seule manière de penser la raison de tuer l'adversaire. Quand il s'agit simplement de l'éliminer économiquement, de lui faire perdre ses privilèges, on n'a pas besoin de racisme. Mais dès qu'il s'agit de penser qu'on va se trouver en tête à tête avec lui et qu'il va falloir se battre avec lui, se battre physiquement avec lui, risquer sa propre vie et chercher à le tuer de lui, il a fallu du racisme. Par conséquent, chaque fois que vous avez ces socialismes, des formes de socialisme ou des moments du socialisme qui accentuent ce problème de la lutte, vous avez le racisme. C'est ainsi que les formes de socialisme les plus racistes, ça a été bien sûr le blanquisme, ça a été la commune et ça a été l'anarchie. Beaucoup plus que la social-démocratie, beaucoup plus que la Seconde Internationale et beaucoup plus que le marxisme lui-même. Le racisme socialiste n'a été liquidé en Europe qu'à la fin du XIXe siècle, d'une part par la domination d'une social-démocratie et il faut bien le dire d'un réformisme lié à cette social-démocratie, et d'autre part, un certain nombre de processus, comme l'affaire Dreyfus en France. Mais avant l'affaire Dreyfus, tous les socialistes, enfin les socialistes dans leur extrême majorité, étaient fondamentalement racistes. Et je crois qu'ils étaient racistes dans la mesure, et je terminerai là-dessus, dans la mesure où ils n'ont pas réestimé, où ils ont admis, si vous voulez, comme allant de soi, ces mécanismes de biopouvoir, que le développement de la société et de l'État depuis le XVIIIe siècle avait mis en place. Comment peut-on faire fonctionner un biopouvoir et en même temps exercer les droits de la guerre, les droits du meurtre, et la fonction de la mort, sinon en passant par le racisme? C'est là le problème, et je crois que c'est toujours cela le problème. Bon, eh bien voilà, j'ai terminé pour cette année.
Pourquoi la commune?
Pardon?
Pourquoi la commune?
Comment ça, pourquoi la commune?
Le racisme, la commune, ça, à quoi avant
Pour des raisons d'affrontement physique. Alors là, si vous voulez, parmi les communards, le nombre de ceux qui ont été... Oui, alors, quand j'ai parlé du racisme, j'aurais dû dire, mais ça... On allait très loin, je m'en sortais pas. L'ennemi de classe, il a été pensé comme l'ennemi de race. Mais comme l'ennemi de race, sous quelle forme? Essentiellement sous la forme de la race qui se trouve détenir dans toutes les sociétés capitalistes le pouvoir économique. C'est-à-dire les juifs. L'antisémitisme a été réinjecté, réactivé en Europe dans la seconde moitié du 19e siècle, non pas du tout par le capitalisme, par les mouvements socialistes. Et c'est simplement avec Drumont que l'on a en France le passage d'un antisémitisme qui était fondamentalement socialiste, on a son utilisation à des objectifs politiques de droite. Et alors avec l'affaire Dreyfus, ça va entièrement basculer.
C'est plutôt la bourgeoisie
non, mais...
qui reprochait aux communards de leur, qui les avait, la Cécilia, Dombrowski, tout ça, des
Cécilia n'a rien, n'a rien à voir là-dedans.
Non, mais... des Italiens ou des Garibaldistes ou des Polonais, ou qui n'étaient pas à leur place, etc.
Non, alors ça, c'est des thèmes nationalistes. Encore une fois. Bon, prenons, si vous voulez, les choses encore autrement. Vous avez eu dans le socialisme français, surtout, c'est surtout le socialisme français qui a été antisémite, vous avez eu dans le socialisme français l'ennemi, il a été surtout pensé, perçu, non pas tellement comme le patron que comme celui qui, auprès de qui on est endetté. L'ennemi, c'est le financier, c'est celui qui a le pouvoir de l'argent. Bon. Et c'est dans cette mesure-là, d'ailleurs, enfin, la raison de cela était que le socialisme en France, depuis les années 1840-48, s'était beaucoup développé dans la petite bourgeoisie, chez les artisans, employés, choses comme ça, et chez les intellectuels aussi. Et alors donc, l'ennemi, ce n'était pas tellement le patron de l'usine, c'était le financier. C'était le banquier, c'était celui auprès duquel on s'endettait, c'était celui qui venait vous saisir. Par conséquent, l'ennemi de classe était pensé physiquement comme le financier et racialement s'était articulé comme le juif. Par conséquent, l'ennemi qu'il fallait détruire, celui qu'il fallait chasser en espèce, dans sa totalité, c'était le juif. Et l'antisémitisme s'est développé dans les milieux socialistes à partir de cela. Et alors là, vous le trouvez perpétuellement dès les années 1800, enfin, bon, en gros, mais chez ceux qui vont faire la commune en 70, vous le voyez déjà formulé dans différents textes qui sont très, très intéressants et d'une extrême violence dès les années 1865. Voilà.
L'État socialiste, on voit très bien la différence que vous faites entre l'État capitaliste et l'État socialiste. Finalement, c'est exactement la même chose.
Ah ben, c'est exactement ce que...
L'État socialiste.
Mais c'est ce que je m'étais, j'allais dire, tué à expliquer. mais je... Pardon ?
L'esclavage salarié existe exactement de la même manière.
Ben écoute, j'ai essayé de dire, sans doute je l'ai mal expliqué puisque tu ne l'as pas compris, j'ai essayé de dire que précisément les États socialistes fonctionnent avec les mêmes mécanismes de biopouvoir et de droit de souveraineté que l'on trouve dans les autres. Donc aucune différence de ce point de vue-là au moins. Voilà. Pardon ? Ah mais ça c'est une autre question. Pour l'instant, je suis en train de parler du biopouvoir, je ne parle pas des États socialistes en général. Je parle des mécanismes de biopouvoir et des mécanismes de souveraineté. Je dis qu'ils fonctionnent de la même façon dans les États socialistes et dans les États non socialistes. Voilà. Ça me paraît relativement simple.